Je suis sûr que ça vous arrive aussi de temps en temps d'ouvrir votre Bible comme ça, enfin, au hasard. Hier soir, bon, j'ouvrais ma Bible et je suis tombé sur ce verset. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Étienne l'a mentionné tout à l'heure. Et j'ai eu un flash. Ceci dit, ce n'est pas de ça que je vais parler ce matin, mais j'ai eu ce flash. Vous savez que ce Seigneur prie pendant tout un chapitre sur l'unité de l'Église en Jean. Et c'est Pierre Guillot qui dit souvent, s'il y a bien quelqu'un à qui Jésus, Dieu, répond aux prières, c'est bien le Christ. Et je n'avais jamais fait le lien avec ce verset. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Donc c'est vraiment la confirmation que Dieu exauce toujours les paroles de son Fils, Jésus. Et si Jésus a prié pour l'unité de l'Église, c'est qu'elle est déjà là. Et que nous nous disons les uns les autres, non, elle n'est pas là, mais elle est là. Elle est là, l'unité de l'Église. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un texte très connu. Et je vais laisser pour la fin une des interprétations qui m'a le plus aidé dans ma vie. Et je vous dirai, révélerai qui est celui qui m'a parlé de cette interprétation, en tout cas de comment le texte lui a parlé. Il s'agit des noces de Cana. Et dans les noces de Cana, il y a plein de choses à voir, et c'est dans Jean, chapitre 2, exact, qui suit exactement le prologue. Et comme dans Jean, c'est toujours, il y a toujours chaque mot compte, chaque lettre compte. Et comme diraient les Juifs, chaque détail du texte, y compris les petites pointes sur les lettres, ont une importance. Et pour Jean, je sais que je ne vais pas du tout être exhaustif par rapport à ce texte, mais il y a plein de choses à voir. Il y a une lecture littérale, il y a une lecture symbolique, il y a une lecture spirituelle de ce texte. Et je vais vous lire ce texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas » et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le verset commence par « 3 jours après ». 3 jours après, c'est très important, 3 jours après. 3 jours après, c'est quoi, 3 jours ? Comment ? La résurrection. La résurrection. Et dans la Bible entière, il s'agit de résurrection pour les 3 jours. Dans la Bible entière. À commencer par, vous vous rappelez l'histoire d'Abraham et Isaac, que lorsqu'ils vont au mont Morija, pour que Isaac soit sacrifié, ils mettent 3 jours à arriver au mont Morija. Et c'est pas anodin, 3 jours. C'était très important. Et vous savez ce qui s'est arrivé au mont Morija ? Mont Morija, dont on dit aussi que l'esplanade du temple, actuellement à Jérusalem, et l'endroit où était certainement le temple, et le Saint des Saints était certainement construit sur l'endroit où Isaac aurait sacrifié, en tout cas pas sacrifié, ligaturé son fils, afin de l'offrir à Dieu, puisque Dieu lui avait demandé. Ce nom Morija est aussi le dieu, d'après une tradition, qui dirait que Dieu a créé l'homme et la femme à cet endroit-là également. Donc c'est un lieu chargé, ce mont Morija. Et c'est aussi le lieu près duquel Jésus aurait été crucifié. Donc c'est tout ce mélange, vous voyez, le sacrifice d'Isaac, la mort de Jésus, la fabrication, la création de l'homme. Et 3 jours après, vous savez que Jésus, comme le rappelait maman, est ressuscité. Vous savez qu'Isaac s'en est tiré. Vous savez que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson aussi. 3 jours. 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et puis il est recraché sur la berge. Et ces 3 jours ne sont pas anodins pour en ce qui concerne donc cette noce de Cana et cette transformation du vin. De l'eau en vin. Il y a à Cana en Galilée. La Galilée, c'était un pays qui n'était pas très recommandé à l'époque, où on l'appelait aussi la terre des nations, d'après ce que disait Isaïe. Il y avait un brassage très très important de peuples qui se trouvait là. C'était pas le cœur d'Israël, Cana, c'était la Galilée. C'était un lieu où il y avait des mélanges. Mais c'est là qu'a lieu ce mariage. Et qui n'est pas anodin quand on pense à l'action universelle qu'a été le sacrifice de Jésus et le fait que grâce à Jésus, toutes les nations de la terre ont été bénies. Et ce jour-là, c'est Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Alors, qui était là? Il y avait la mère de Jésus, il y avait Jésus lui-même, il y avait les disciples. On parle de l'ordonnateur du repas, on parle de l'époux, on ne parle pas de l'épouse. L'épouse est absente dans le texte. Il y a un mariage, et certainement l'époux et l'épouse, mais l'épouse n'est pas là. Pourquoi? On peut penser, qui est l'épouse de Jésus? C'est l'Église. Et déjà, on peut penser, puisque l'épouse n'est pas là, peut-être qu'on va chercher où se trouve l'épouse. Et c'est ça, Jean. Il y a la lecture littérale du texte, un mariage, Jésus qui transforme l'eau en vin, c'est le premier miracle. C'est pas le premier miracle, c'est le premier signe. Que Jean parle de sept miracles, sept signes dans son évangile. Et c'est le premier. Et c'est assez curieux parce que ce texte suit le prologue. Et le prologue, vous savez que ça parle aussi de la création du monde, la création qui s'est faite en 7 jours. Et il y a déjà 4 jours qui se sont passés au moment, pendant le prologue. D'ailleurs, Jean scande les choses en parlant de Jean-Baptiste. Le lendemain, il y eut ça. Le surlendemain, il y eut ça. 3 jours après. Et si vous faites le compte, ça fait 7. Hein, ça, je vous laisserai, je ne vais pas détailler les choses, mais ça fait 7. 7e jour, c'est quand même quelque chose d'important. 7e jour, c'est la perfection. Et c'est quelque chose d'important. 7e jour, c'est donc, je vous disais, la perfection, c'est donc le mariage. C'est donc aussi le 7e jour, le Shabbat, pour chez les Juifs, le jour du repos, le jour de la fête. C'est aussi, quand on repense un petit peu à chez les Juifs, ils disent qu'il y a 2000 ans de tohu-bohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de messianisme, et après il y a 1000 ans de Shabbat. Donc là aussi il y a quelque chose de réjouissant. On se réjouit. Vous savez que lorsqu'on reverra le Seigneur, nous serons tous à sa table. Et on va boire du vin, du bon vin. Et vous verrez après. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'au moment où Jésus change l'eau en vin, les récipients qu'il utilise sont des vases de pierre. 3 mesures, c'est environ 1000 à 1200 litres. Donc 6 jarres, c'est 600 litres de bon vin. Et les serviteurs, ils vont y aller à fond, hein, ils vont remplir jusqu'au bord. Alors, ils vont être très obéissants, ces serviteurs, j'ai oublié de les mentionner, mais c'est quand même eux. Le petit peuple. C'est pas l'ordonnateur du repas, c'est pas les convives, c'est pas l'époux, c'est les serviteurs qui sont là et qui obéissent à Jésus inconditionnellement. Ils savent certainement qui il est. Mais c'est pas des poteries là où on contient du vin, c'est les jarres dans lesquelles se purifiaient les Juifs. Et si vous allez sur l'esplanade des mosquées, vous allez monter par l'extérieur extérieur qui n'existe plus, là où vous montez au temple. Eh bien, vous avez à cet endroit-là, c'est à droite du mur des lamentations, ce qu'on appelle des mikvés, les bassins, où les gens se trempaient entièrement. C'était pas seulement on s'asperge un petit peu d'eau et puis on est pur, non, on se plongeait complètement. Et dans 100 litres d'eau, il est possible de se plonger complètement. En tout cas, c'était des bassins pour la purification des Juifs. Mais il y a quelque chose d'important, c'est le chiffre aussi. Pourquoi 6? Alors, 6, on dit que c'est le chiffre d'homme. 6, c'est le chiffre d'homme. Et 6 jars, c'est la capacité laissée de l'homme à se rendre pur sans Jésus. C'était les sacrifices perpétuels, les sacrifices qu'on faisait régulièrement au temple. Ces séries de purification qu'on faisait très souvent avant de rentrer sur l'esplanade du temple, avant de rentrer dans le temple pour se purifier. C'était ça qui était quelque chose de très très important pour les Juifs. Chez les Esséniens, ils se baignaient je ne sais pas combien de fois par jour pour se rendre purs. Ils étaient habillés tout en blanc. On a visité ce site-là, c'est extraordinaire. Vous avez des bassins partout. Et des bassins où on se plongeait complètement. Donc l'idée du baptême, c'est quelque chose de tout à fait banal dans l'esprit de Jean-Baptiste et dans l'esprit de Jésus. C'était quelque chose qu'on faisait. Sauf que là, c'était une tentative toujours humaine. On te demande pardon. Et les plus grands des saints d'Israël avaient besoin de se baigner le grand sacrificateur, une fois par an, se baignait aussi. Et demander pardon pour les péchés qu'il avait lui-même commis et pardon pour les péchés de tout le peuple. C'était quelque chose d'imparfait encore. C'était les 6 jars. Et là, l'époux arrive, le 7e jour. Comme si le 7e vase, c'est Jésus qui arrive une fois pour toutes et qui fait en sorte que nous n'ayons plus besoin de faire des efforts dans le sens où pour avoir notre salut. Notre salut est acquis une fois pour toutes et définitivement à la croix. Jésus est venu pour cela. Alors, le vin vient à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle est très discrète, Marie, dans l'histoire. Elle n'impose rien. Elle dit simplement un constat, voilà. Il n'y a plus de vin, mais elle ne dit rien de plus. Mais Jésus va réagir d'une manière assez forte et j'ai lu des tas de commentaires depuis que je savais que j'allais vous parler de ce texte. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Alors certains disent que c'est une expression, c'est vrai que c'était une expression respectueuse. Quand on disait femme en Orient, c'est pas nécessairement quelque chose de disrespectueux. Mais tout de même, le ton de Jésus est sec. Et ça, tous les commentaires, même s'ils adoucissent un peu les choses, semblent aller dans ce sens-là. Ce qui est très curieux, c'est qu'il dit « mon heure n'est pas encore venue », l'heure de sa mort, l'heure pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Et en plus, c'est somme toute quelque chose de pas essentiel, ce vin. Encore, c'était des gens qui sont à ta famille, il faut leur donner à manger, ça il l'avait déjà fait. Mais là, c'est du vin. Et le texte dit c'est du vin avec lequel on s'enivre aussi. Enfin, je veux dire, et un mariage, on sert le bon vin d'abord, quand les papilles gustatives sont encore prêtes à apprécier l'année, le cru, etc. du vin. Après quelques verres, si vous voulez, on ne sait plus trop. Et le texte nous dit qu'ils étaient un petit peu enivrés. Et on dit que la Bible dit, je dis ça à mes patients pour leur dire, c'est vrai, quand vous n'avez pas le moral, vous buvez un coup le soir en rentrant un deuxième coup, vous vous sentez mieux. Donne du vin à l'homme triste, nous dit le proverbe, quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut abonder là-dedans, hein, c'est un piège terrible. Mais tout de même, quand je leur dis ça, mes patients, ils sont contents parce qu'ils savent que je comprends pourquoi ils ont recours à l'alcool quand ça ne va pas. C'est un des meilleurs anxiolytiques qui existent, c'est un piège épouvantable aussi. Mais... Alors Jésus, il se pose des questions, mais pourquoi est-ce que je vais changer l'eau en vin ? Il n'y a plus de vin. C'était la responsabilité aussi de l'époux. Alors, c'était aussi quelque chose de terrible parce qu'il y avait beaucoup de convives qui étaient là. Et s'il manque du vin, ça veut dire que le mariage a mal été organisé. Donc au niveau culturel, c'est moyen. Mais il y a toute cette signification de mystique, toute cette signification spirituelle, toute cette signification symbolique dans cette histoire. Et puis il y a cette relation entre Marie et Jésus qui est extraordinaire. Elle l'a vu grandir. Certes, c'est un homme mûr, il a 30 ans, c'est plus un petit garçon par qui la maman propose quelque chose, va dire bonjour au monsieur, ou va dire bonjour à la dame, c'est pas ça. Elle lui dit simplement, ils n'ont plus de vin. On ne sait pas ce qui se passe dans les têtes de Jésus à ce moment-là. Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. En tout cas, le texte est très honnête en nous mentionnant cette différence, cette proposition de Marie et la réponse de Jésus par rapport à ça. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Vous savez, quand Jésus était dans le désert, juste avant, le diable l'a tenté, notamment avec les pains. Vous vous rappelez, les pains, fait en sorte que ces pierres deviennent du pain afin de pouvoir te manger. Jésus, qu'a-t-il fait? À chaque proposition du diable, pourtant c'est des propositions qui sortaient de la Bible, Jésus a dit non. Et là, il va dire oui. Il va faire les choses. Il ne va pas dire oui, il va faire les choses. Alors qu'est-ce que c'est que ce mariage? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Ce mariage, c'est aussi les noces de l'agneau. C'est aussi Jésus qui est l'époux et qui va épouser l'Église. C'est l'alliance indéfectible entre Dieu et les hommes. Et le Seigneur ne se renie jamais dans ses propositions. Et je vais vous lire un texte, parce que ce n'est pas la première fois que la Bible parle de mariage. Et voici la seconde lecture avant de revenir au texte. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, dit le prophète Ésaïe, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, que son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire, on te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation, toi tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée, comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Vous savez que vous connaissez l'histoire d'Osée. Osée à qui le Seigneur lui demande de revenir sans cesse vers sa femme qui est une prostituée. Et sans cesse, Osée l'accueillera. Les promesses de notre Dieu sont définitives. Une fois qu'il dit oui, une fois qu'il s'engage, c'est définitif. Et c'est définitif en chacun d'entre nous, c'est ça qui est extraordinaire. Pendant le chant tout à l'heure que Pierre a choisi, l'avant-dernier chant, Viens dépose tout, j'ai eu un moment d'émotion en me disant, le roi des rois me fait encore confiance, moi qui suis un pécheur. C'est extraordinaire. On ne le réalise pas assez. Et quand vous préparez comme ça un texte, il y a une excitation, la joie de découvrir le sens des mots, etc. Et donc vous êtes une espèce d'oreille affûtée à la parole de Dieu, à tout ce qui pourrait nous arriver. Moi, j'ai reçu plein de choses pendant la prière ce matin avec vous, chacun. C'était bon, parce que j'étais affûté à vous écouter et à m'enrichir avec vos prières, avec les chants. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Donc nous nous préparons à un banquet extraordinaire à travers ce message des noces de Cana. Et le vin qu'on va boire là-haut, Hubert, sera excellent. On pourra trinquer ensemble. J'en suis persuadé, c'est bon de le savoir. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Combien il était important pour les disciples de voir concrètement des choses. Et nous pouvons les uns et les autres nous attendre à Dieu, nous attendre au miracle. Ne délaissons pas ça. soit Dieu est capable. Et nous, à nous d'être à l'écoute et de nous attendre à ce que Dieu se manifeste d'une manière concrète. Lorsque nous prions pour nos malades, soyons persuadés qu'il est capable. Et je parle de choses spectaculaires. Je parle de Matthias, par exemple. Persuadé que Dieu peut restaurer totalement son corps et faire en sorte que Matthias soit l'homme qui va être à la résurrection, avant la résurrection. Dieu est capable. Dieu est capable de ça. Il faut en être persuadé. Si nous ne sommes pas persuadés de ça, ça veut dire que nous ne croyons pas vraiment en Dieu créateur de l'univers. Le maître du monde, qui a tout créé. Si lui a tout créé, il est capable de faire tout ce qu'on peut imaginer. C'est possible. À nous de prier sans cesse, par rapport à tout ça. Alors, tout à l'heure, je voulais vous révéler la raison pour laquelle quelque chose qui m'a énormément aidé, qui m'aide encore énormément avec mes patients. Et c'est une façon de voir le passage qui en a surpris plus d'un lorsque c'est arrivé. Il s'agissait du mariage de Marie-Claire. Et c'était Patrick qui prêchait pour sa sœur. Et le message principal que j'ai retenu, et qui était très important, qui restait très important pour moi, c'est que le meilleur est pour la fin. Que le meilleur est pour la fin. Et que le bon vin, dans notre vie, c'est pour la fin. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai vérifié aussi dans ma vie, par rapport à mon couple. Je trouve qu'il est mieux maintenant qu'il ne l'a été au début. J'ai un ami de 82 ans, qui a perdu sa femme, 79, Chantal. Et il me dit, Richard, j'avais encore tellement de choses à connaître d'elle. Tellement de choses à connaître d'elle. Elle est partie, 79 ans. Et c'était déjà un couple très, très uni. Le meilleur est pour la fin. Le meilleur est pour la fin. Il y a aussi, et ça, j'en parle à mes patients qui sont de culture, ceux qui sont de culture chrétienne, je leur parle des noces de Cana. Alors, généralement, ils disent, j'ai plus ou j'ai vaguement entendu parler de ça. Et en plus, c'est des gens qui sont dans l'alcool. Alors, quand je parle de vin, on parle de bon vin. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce docteur? Il m'encourage à décrocher du vin. Et puis, en même temps, il me dit, il me parle des noces de Cana et du bon vin. Alors maintenant, en addictologie, on est plus dans l'accompagnement des gens. Hein, si les gens veulent simplement avoir un rapport avec l'alcool, néanmoins, qu'ils ont été très, très dépendants, il est possible de ne continuer à consommer en régulant sa consommation. C'est difficile et parfois les gens viennent eux-mêmes à décider, bah, écoutez, non, ça, je peux pas contrôler, dès que je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Mais l'idée, c'est qu'eux s'approprient leur projet par rapport à ça. Enfin, je leur parle des noces de Cana en disant, bon, vous vivez une galère actuellement, mais le meilleur est pour la fin. C'est pas parce que vous êtes en dessous de tout en ce moment, que rien ne va plus dans votre vie, que c'est fini. Il y a quelque chose d'autre. Et je leur parle d'un film, aussi à ses patients, et d'un livre. Le film, je vous encourage de le voir, puis c'est Pierre qui me l'a recommandé, c'est Le Voile des Illusions. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça commence par un adultère, vous n'avez pas trop envie de continuer le film si vous êtes un peu prude, mais il faut regarder la fin, allez. C'est magnifique. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire autour de ça, qui ne s'est jamais vraiment rencontré. Et puis, il va être amené, lui, ce biologiste, à travailler sur le choléra, dans une zone infestée de choléra. Et pour punir sa femme, il lui demande de venir avec lui. Et ils vont aller dans ce monde très, très hostile. Et je vous laisse découvrir ce film. En tout cas, il y a toujours de l'espoir. Et il y en a d'autant plus que nous avons confiance que le Seigneur veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors certes, on passe parfois par des épreuves épouvantables, mais comme nous l'avons chanté ce matin, on doit le bénir en tout temps et lui faire confiance. Le livre dont je parle, et je vous en avais déjà parlé ici il y a quelques années, c'était « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Et ce livre parle d'un homme qui perd sa femme, ses enfants dans un accident de voiture, dans une tristesse absolue, part dans les Cévennes, il élève des moutons, et puis progressivement, il va il va planter des chênes, 100 chênes par jour. Donc, à la fin, il sélectionne ses glands, il sait très bien que celui-là va marcher. Vous imaginez, hein, tous les jours, vous répétez le truc, à la fin, vous êtes le spécialiste du gland, hein, le spécialiste. Et donc, il va planter ses 100 chênes par jour. On dit que c'est une histoire vraie, cet homme s'appelait Eleazar Bouffier. Et Jean Lionneux débarque comme ça dans sa petite maison. C'est un homme qui ne parle plus tellement, puisqu'il a l'habitude de vivre seul. Donc Jean Lionneux se met à son côté, ils mangent ensemble, mais bon, il l'accompagne, mais il ne parle pas beaucoup. Et cet homme, à lui tout seul, va replanter toute une contrée complètement désertique. Et quand vous plantez un arbre et quand vous l'arrosez régulièrement, ben, l'arbre va chercher l'eau. En cherchant, il va grandir. Et puis, l'arbre attire les oiseaux. L'arbre attire les nids. L'arbre attire aussi l'eau. Et l'eau arrive, l'eau revient. L'eau revient. Et puis, ces villages qui étaient complètement délaissés, ben, y a des gens qui se baladent dans le coin. Ils disent, mais c'est fantastique, ce lieu parle d'une maison délaissée. Pourquoi ne pas investir ce village? Et à lui tout seul, cet homme, il a repeuplé d'arbres cette région désertique. Il a fait en sorte que ces gens réinvestissent les villages, les maisons, reforment des communautés et des enfants. Et voilà, quel est le message de cette histoire? C'est qu'il y a toujours d'espoir et que notre heure n'est peut-être pas encore venue. Comme disait Jésus, mon heure n'est pas encore venue. Et que peut-être que l'heure viendra à 80 ans, où vous allez faire ce pour quoi vous étiez destiné. Et ça, c'est quelque chose qui a porté dans l'espoir. Et je partage ça à mes patients qui sont au bout du rouleau, qui sont dans l'alcool jusqu'au cou, qui n'ont plus de famille, la femme les a quittés, ils ne voient plus leurs enfants, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En disant, c'est certes, la pente est difficile, c'est comme dans le mythe de Sisyphe, hein, il est tout en bas de la montagne, hein, il doit pousser son rocher. Alors, pour ceux qui ont une ouverture spirituelle, je peux leur parler. Je tends des perches, ils les saisissent et je leur parle de ce qui fait l'essentiel de ma vie. Pour ceux qui n'en parlent pas, qui ne me tendent pas de perches, je ne vais pas leur imposer la foi, ça serait quelque chose qui ne serait pas normal de ma part en tant que médecin. Mais voilà, ce que veut dire en tout cas ce miracle de Jésus, et ça m'a bien parlé, Patrick, lors du mariage de sa sœur, d'avoir entendu ce message pour moi-même. Et j'avais entendu des prédicateurs qui étaient, parce qu'ils étaient nombreux à être là, tiens, c'est quelque chose d'original, on n'a jamais entendu ça. Et effectivement, je ne l'ai pas relu dans les commentaires que j'ai pu lire sur les noces de Cana en Galilée. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, sachant que si vous êtes au fond, actuellement, aujourd'hui, peut-être, sachez que demain sera un autre jour et que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Amen.